Bonjour, Raymond Richard au micro, Guy est à la technique et nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions mais qui ont quand même des convictions communes. Je crois que ça c'est intéressant. Et donc il y a autour des micros de Radio Grand Ciel, Chantal Matelet pour les catholiques, Roger Bianchi pour les protestants, Jean-Pierre Dubreuil pour les humanistes laïcs et Mimoun Enbati pour les musulmans. Merci d'être là ce soir pour l'émission Mosaïque de ce mois-ci. Et je vous rappelle, ou je vous annonce, chers auditeurs, que nous avons pris comme thème la fraternité. Alors effectivement, dans les milieux chrétiens, on parle tous frères, même si ce n'est pas tout à fait vrai, ou ce n'est pas toujours très vrai, ou en tout cas, c'est ce que disent les textes. Dans les religions, souvent, il y a une certaine fraternité qui apparaît comme étant un des points d'ancrage. Mais c'est aussi la devise républicaine et c'est pour nous tous qui vivons en France aussi quelque chose qui est commun. Et alors la question, c'est, eh bien, repérons des initiatives de fraternité, quels sont les lieux d'apprentissage de la fraternité, etc. Et puis, eh bien, c'est ce dont nous allons parler ce soir. Voilà, merci d'être là. La fraternité, Mimoun.
Écoutez, la fraternité, si, par rapport au texte, donc le Coran, à chaque passage du Coran dans lequel Dieu nous raconte l'histoire d'un prophète, qu'il a envoyé une tribu, il dit, je leur ai envoyé leur frère, alors que lui n'avait rien à voir avec cette tribu. Tout simplement que la fraternité, elle est humaine. C'est-à-dire qu'on vient d'un seul créateur et même père. Le père, c'est Adam. Et Adam est fait de la terre. Et pour nous, c'est comme ça qu'on voit la fraternité, en tout cas. C'est une fraternité humaine. Et plusieurs passages du Coran rappellent que les prophètes ont été envoyés en tant que frères aux différentes tribus.
Pour les rappeler à l'ordre, justement, de cette nécessité de vivre.
Alors qu'ils ne faisaient pas partie de cette tribu-là.
Quelque chose de fraternel avec d'autres tribus. Jean-Pierre, vous aviez une remarque.
La fraternité, oui, c'est le terme clairement vient des religions, mais maintenant il est devenu aussi, comme tu le disais, un des mots de la devise de la République.
Hein. Voilà, trois piliers, hein, liberté, voilà. Égalité, fraternité.
Dans le cadre de la laïcité. En France, quoi.
Oui.
Oui, alors, c'est quoi, hein, la fraternité? Eh bien, c'est peut-être le contact avec l'autre, la solidarité, l'aide, l'ouverture aux autres. Ça implique, je crois, un effort. Hein. Être citoyen, et je suppose que c'est la même chose pour être croyant, ça implique un effort, hein, et un effort d'aller vers les autres. De toute façon, on ne peut pas vivre seul.
Voilà, une volonté de rencontre, quelque part.
Volonté de rencontre, oui.
Roger, vous allez nous dire des choses.
Oh, je crois que une des premières choses, c'est que qui dit fraternité, dit frère, et il y a beaucoup d'endroits où on vit la fraternité. C'est quelque chose qui se vit. On vit, moi j'ai vécu dans un organisme, une association où, qui était divisée en fraternité. On vivait en frères, c'est-à-dire qu'on partageait. Alors le mot fraternité, il y a un tas de choses qui se lient avec ça.
C'est
vivre, écouter, le partage, respecter, écouter, servir. Tout ça c'est un ensemble. Et je crois que il faut un petit peu piocher, un petit peu plus au fond. Moi, j'ai toujours été, moi protestant, toujours été surpris, questionné sur ces frères, ces communautés religieuses. Ils sont tous frères, oui. Ils sont tous frères, certes, entre eux. Mais est-ce que...
Ils sont frères avec
comment,
les autres.
Comment on peut dire que c'est mon frère quand ils vivent seuls? Comment, voilà, donc il y a cet aspect-là. Et puis alors, il y a aussi l'aspect familial. Combien de fois, frère, il y a sœur, automatiquement, c'est lié. Fraternité, il n'y a pas de féminin, si ?
Sororité.
Oui.
Je crois que ça existe.
Mais ça ne se dit pas souvent.
Non.
Non.
Mais on le...
On dit tous humains, on ne parle plus de la déclaration des droits de l'homme, mais la déclaration des droits humains.
Oui, ça, parce qu'il est venu dans... Et alors, c'est là, quand je disais au début, c'est frère, pourquoi on a mis ce mot-là au milieu des autres.
Alors, c'est vrai qu'historiquement, les groupes qui marchaient pour défendre la République étaient vraiment, se sentaient soudés dans la lutte contre d'autres qui voulaient rétablir l'Ancien Régime. Donc là, c'était déjà une vraie fraternité d'armes. Et souvent, ceux qui affrontent un danger, notamment dans les récits des poilus, par exemple, de guerre, et dans leur... ils évoquent cette fraternité qui se vit au fond dans la désolation la plus épouvantable de la tranchée. Ils se sentent en fraternité avec celui qui est à côté. On se sent en fraternité aussi au fond de la mine quand on travaille, parce qu'on sait très bien que notre vie dépend de la poche de grisou qui va exister, de la confiance que l'on a vis-à-vis de ceux qui ont établi le tracé des boyaux de mine. Donc là, il y a une fraternité qui se vit face au danger.
Oui, bien sûr, dans la fraternité entre autres, dans le travail, c'est sûr.
Une fraternité dans le travail, dans l'atelier.
Moi, j'ai lu un article qui vient de Geneviève Antonioz de Gaulle, qui dit, elle, que quand elle a été...
Dans les camps,
la fraternité contre le désespoir. Lutter contre le fait qu'on voulait les déshumaniser et qu'en fin de compte, la fraternité leur permettait de garder leur humanité entière et non seulement ça, de ne pas désespérer, de se donner des raisons de même accompagner l'autre quand elle savait que l'autre allait sûrement vivre quelque chose de difficile, de l'accompagner, dire on sera toujours là, mais rien n'est perdu. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai que quand Raymond, tu parlais de la fraternité dans les armes, c'est vrai que mon grand-père m'a beaucoup parlé de ça, dans le désespoir, comment se resserrer, ça a aidé à fraterniser. Et mon grand-père me disait même que lui, ça l'avait aidé, après, quand il était revenu de la guerre, à ne jamais oublier qu'on était frères.
C'est une expérience qui les avait marqués.
Ça devenait plus facile, il ne fallait jamais oublier cette fraternité. Et mon grand-père disait même, je me souviens, il disait, on est prêt à se soutenir quand on est dans le malheur, il ne faut pas oublier que même quand ça va mieux, il faut continuer de se soutenir. Et je trouve ça intéressant parce que ça met la fraternité, comme vous disiez, la fraternité, c'est un combat. C'est quelque chose au jour le jour qui se construit. Et c'est pour ça que, Raymond, vous parliez d'éducation. Effectivement, il y a une éducation, quelque part, à la fraternité.
Alors ça nous amène à parler des lieux d'apprentissage. Et peut-être que dans l'éducation, comment c'est un lieu d'apprentissage de fraternité ?
Alors là, c'est un lieu d'apprentissage, effectivement, à condition d'employer les bonnes méthodes. L'école, c'est formidable, c'est nécessaire, et ça peut être la source d'une vie riche, d'un développement qui permet de découvrir le monde avec ses beautés, avec justement les contacts qu'on peut avoir avec les autres. Mais ça passe par des méthodes. Et
c'est-à-dire personne, pas forcément en classant les gens et en les comparant les uns aux autres, premier, deuxième, troisième.
Voilà. Moi, j'ai été prof et j'ai beaucoup aimé. Et un jour, j'expliquais à une inspectrice que je connaissais bien, avec qui j'avais fait des livres, que j'étais parfaitement heureux, sauf quand il fallait que je mette des notes. Eh bien, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce que je voulais dire. Et je pense qu'en France actuellement, si l'éducation nationale a une si mauvaise réputation, c'est même essentiellement parce qu'on ne fonctionne que sur la compétition et non pas sur la coopération, la fraternité, l'entraide. Alors qu'en France, on a des penseurs qui ont des idées formidables, mais pour des raisons que je ne comprends pas, on n'arrive pas à faire entrer dans la formation des maîtres. Déjà que la formation a beaucoup diminué ces dernières années, On essaye de recommencer en ce moment, mais c'est pas ça la formation des profs. En France, on fait des gens très savants, mais qui ne sont pas des bons enseignants. Sauf ceux qui ont ça dans la peau.
Oui, ça, on en a quand même quelques-uns.
Ça existe, je ne veux pas dire que les bons enseignants n'existent pas. Mais on ne prend pas la précaution de former tout le monde à être un bon enseignant.
Moi, je vois aussi quand même, puisque je fais une émission sur l'éducation, je vois des gens se décarcasser pour emmener toute une classe à l'opéra, alors qu'elle habite un quartier difficile. Une classe, rencontrer les Chibani... Au foyer d'Adama, et puis les enfants, là, ils se découvrent mutuellement, et bien là, je me dis, il y a quand même, heureusement, des lieux de fraternité, des lieux d'éducation.
Oui.
Et l'école est quand même un lieu d'éducation à la fraternité, et les enfants, quand on voit comment ils disent « c'est mon copain », qu'ils montrent le trombinoscope de leur copain, « c'est mon copain », ils sont tous des copains quand ils sont petits. Donc il y a quand même, bon Dieu merci, tout n'est pas perdu, mais on peut dire qu'on souhaite que l'école développe ce sentiment de fraternité entre les enfants qui sont différents. Parce que les enfants, finalement, ils jouent ensemble, ils sont copains, quoi, ils s'aiment bien. Quand ils sont petits, en tout cas. Alors après, c'est vrai que... la différenciation intervient.
Je pense que, pour moi, le problème, c'est que c'est comme la paternité et la maternité, être parent. On pense que c'est inné. Et moi, par rapport à ça, je voudrais parler d'une expérience. C'est une expérience qui se fait dans une autre ville que la nôtre, où on rassemble des parents. C'est ce qu'on appelle une école des parents, presque. Et où des parents viennent... c'est plutôt des mamans parce qu'elles ont plus le temps, mais il y a des papas, avec leurs enfants, les enfants jouent, et là, il y a un dialogue qui se fait entre les parents, et les parents découvrent, petit à petit, peuvent dire leurs difficultés, et puis peuvent dire que le petit garçon ou la petite fille, ça va pas bien, et il se fait une entraide entre les parents, qui est assez extraordinaire, parce que ils se prennent en charge, ils ne se jugent plus, ils se prennent en charge en regardant les enfants jouer, avec quelqu'un qui les aide, parce qu'il y a des aides, il y a un psychologue, éducateur, qui les aide à réfléchir par rapport à ça, et ça se fait. Et je dis, ils se créent une réelle fraternité, parce que je vais vous donner ce qui s'est passé dans cette ville, c'est que dans ce groupe-là, il y a une jeune femme qui est devenue mère, qui était une jeune femme trisomique, qui est devenue mère de famille. Et au départ, ses parents ont dit « on va la garder et on va faire comme si elle était peut-être pas la maman, on va élever le petit ». Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit « c'est pas possible ». Et c'est un voisin qui leur a dit « mais écoutez, allez donc dans ce lieu-là et vous allez voir, elle est maman, il faut qu'on l'aide, elle ». Et il s'est créé un lien d'amitié, les autres parents ont aidé cette jeune femme à vraiment devenir une maman. Non seulement ça, mais elle a pu se prendre un appartement et ils sont se relayés pour qu'elle puisse, elle, être vraiment la maman de ce petit. Et puis, avec ses difficultés, et je trouve que et en fin de compte, je pense que c'est là des lieux de fraternité, d'entraide, de coopération qui sont drôlement intéressants.
Alors, en vous entendant, je crois aussi que nous n'allons pas trouver des livres sur la fraternité, mais on perçoit qu'elle se vit. Voilà. Alors, après la pause musicale, nous allons reprendre sur ce thème qui me paraît très important.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Eh bien, nous sommes toujours dans l'émission Mosaïque, interreligieuse, interconvictionnelle, et nous évoquions la fraternité. On en était arrivé à l'idée que elle n'évoque pas des discours, mais plutôt des actions, des mises en route, des exemples de fraternité. Et reprenons quand même le fait que lorsque nous voulons être bien avec d'autres, nous choisissons nos amis, mais que nos frères nous sont donnés et que peut-être, quelquefois, ils nous dérangent un peu. Donc ce qui veut dire qu'il y a une part de volonté pour construire la fraternité. Il y a quelque part cette volonté d'accueillir l'autre comme frère ou de faire en sorte que nous vivions en frère.
J'ai un très bon exemple que j'ai vécu personnellement. Juste pour rappeler, il y a une tradition prophétique qui dit que vous ne serez croyant que lorsque vous aimerez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et un été, j'étais en vacances en Égypte avec ma famille, au Caire, et avec les enfants, on est rentré dans une petite boutique pour leur acheter des friandises, et le propriétaire n'a pas voulu nous vendre. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il nous a répondu qu'il nous a invités à aller voir le voisin d'en face, parce que lui avait déjà fait son chiffre d'affaires, et que son voisin d'en face, qui était chrétien, alors que lui était musulman, n'a pas eu beaucoup de clients. Et c'est du vécu, c'est ça la fraternité, ça ne se limite pas juste...
En tout cas, vous l'avez reçu comme...
En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Donc, j'invite les gens à voyager. Ça permet de découvrir des...
des réalités.
Des réalités que beaucoup de gens
de
vivent.
De fraternisation extraordinaire.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est vrai, parce que quelquefois, en allant dans une église ailleurs, il m'est arrivé de trouver que ce n'était pas très accueillant. Quoi. On dit bien qu'on est frères. On a bien récité le Notre Père, donc oui. Il nous fait frères. Mais en fait, je suis partie sans parler avec quiconque. Et voilà. Alors, je me dis, peut-être aurais dû forcer un peu, mais...
On a vécu l'office.
Oui.
Et puis, en sortant, on se dit bonjour. Poliment, c'est poli. Mais c'est tout. Ça s'arrête bien souvent. Et je pense que c'est là où c'est l'erreur c'est une erreur pour l'Église, mais c'est valable pour lui, de dire on est des frères, mais il faut vivre en frère.
Oui.
Ce qu'on disait au début, je crois que la fraternité, ça se vit. Vous avez dit qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'écrits sur le thème, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples qui se vivent.
Voilà, oui, c'est vrai, nous sommes partis sur le registre des exemples pour nous donner un peu de courage pour la vivre, cette fraternité.
C'est sûr que c'est pas facile, en plus.
Mais non, parce que être frère, ça ne veut pas dire on se fait des...
On gomme les conflits.
On est toujours d'accord, on est gentil, etc. C'est qu'il y a des conflits à assumer ensemble, à assumer. Ou si on ne peut pas les assumer, se dire, bon, on verra plus tard, mais à assumer. Ce n'est pas que des gens qui s'entendent a priori, c'est qu'il faut aller vers une entente. Une entente, pas penser la même chose, aller vers une entente, un accompagnement. Mais en même temps, il faut assumer les conflits. Et je pense que c'est important, ça.
Moment de l'héritage, par exemple.
Ah ben oui.
La petite cuillère que chacun veut.
Mais ça fait rire parce que moi, je suis quelqu'un de pas très jeune. Et pour maman, quand on se disputait, c'était inconcevable. Vous êtes sœur, alors vous devez vous entendre. Ben oui, mais non, on ne devait pas s'entendre a priori. On avait des choses à se dire. Et je trouve que c'est important d'apprendre aux enfants, en plus dans l'éducation à la fraternité, d'apprendre aux enfants à gérer leurs conflits.
À discuter, à dialoguer.
À s'expliquer, à dire à l'autre, à s'écouter.
Le pourquoi de la chose, c'est sûr. Ouais. Moi, je crois que là aussi, les enfants sont tentés d'éviter ou de ne pas vivre la fraternité quand on voit ce qui se passe à la télévision. Je m'amuse des fois à regarder, à zapper et tout. Il n'y a pas une soirée où il y a trois films policiers qui expliquent bien comment... Mais alors, c'est le mal. Ils exploitent vraiment la question. Alors, je dis, mais dans le fond, celui qui n'a rien, qui est l'enfant qui est dans la rue, qui a peu de copains ou pas d'idéal, il regarde ça, ça lui donne des idées.
La télé tous les jours, ça donne des idées de fraternité
oui.
inverse.
Ah oui ouais. De non-fraternité.
C'est de non-fraternité.
Ah oui, c'est la...
Oui, tout à l'heure, j'ai pu apparaître très pessimiste en ce qui concerne l'éducation. En fait, je vois dans la vie de tous les jours qu'il y a des petites initiatives privées qui sont des vrais efforts de solidarité. C'est incroyable que ça soit des gens qui donnent, qui accueillent. Il y a des gens qui accueillent des étrangers, ça existe, hein. Des gens qui vont rendre visite aux malades, des gens qui vont faire des activités avec des personnes en maison de retraite qui sont isolées, hein, que ce soit de la lecture
rompre
ou
des
jeux,
des uns, des autres.
Voilà, rompre les isolements. Moi, je trouve qu'il y a certainement, au niveau... un petit peu comme ça,
la vie quotidienne,
beaucoup d'actes généreux. Ce qui est un peu malheureux, c'est que on vit dans un monde où politiquement, un certain nombre de gens ne sont pas dignes des fonctions qu'ils revendiquent, et évidemment, ça décourage. Hein. Alors, on a des visions pessimistes, on a l'impression que... tout ça, c'est de la bagarre, qu'il y en a qui veulent dominer les autres.
Et au lieu de servir le bien commun, se servir.
Ah ben ça, je n'ai pas été jusque-là, moi. Enfin...
Mais c'est vrai que le frère, c'est celui, il n'y a pas le dominant et le dominé. Le frère, ça nous donne le statut d'égalité. Enfin, on est sur le même...
Une relation fluide, peut-être pas l'égalité, mais une relation fluide.
Ils apportent l'un à
l'autre. Non, au même niveau, je dirais.
Reconnaître chacun... pour ses qualités, oui.
Un ami c'est mon frère, parce que on a des idées différentes, mais on a vécu des actions ensemble, on a fait des choses ensemble. Bon, maintenant, on a la joie de se rencontrer, donc je ne dis pas ça à tout le monde. Donc il y a cette étincelle qui s'est produite un jour. Quand je parle de mon frère à son épouse, on sait bien qui c'est, hein, il n'y a pas de problème. Et pareil, réciproquement. Hein.
Réciproquement aussi.
Et il faut dire qu'il est catholique, voilà, en plus de ça. Mais c'est pour bien qu'il
alors
faut
que vous vous
justement
êtes protestant,
écouter
donc on peut être frère
et vivre fraternellement.
Différent. Et il y a la semaine bleue, il y a aussi des institutions, de lieux où les gens se rencontrent. Moi, je suis frappée au Forum des associations de voir que dans chaque stand, il y a des gens qu'on connaît. On se repère, puis on se dit, bah, tiens, finalement, ça réchauffe un peu le cœur de se dire qu'avec les uns les autres, dans ce... ici, c'est... bon, ils s'occupent des chiens aveugles. Ici, ils s'occupent d'éduquer les enfants. Ici, ils font du soutien scolaire. Ici, ils accueillent... des autres, enfin, des fois je suis frappée de voir la multitude.
Oui,
oui, c'est essentiel. Moi je suis persuadé que d'une manière pratique, dans une ville, hein, comme ici, les associations sont vraiment les lieux. Où les gens peuvent se rencontrer. Voilà. Ben oui, ben des fois ils s'affrontent à l'intérieur, il y a chacun à son point de vue, mais c'est des lieux de socialisation positive. Hein. Ça permet à des gens d'en connaître d'autres et petit à petit de partager avec eux des choses. Souvent qui sont bien, hein. C'est pas des choses pour ce qu'on cacherait, ce sont des choses positives.
Oui, parce que souvent les gens qui sont dans ces associations-là, ce sont les gens justement qui le veulent, qui le vivent et qui ne s'en passent pas. Il y a des gens qui ne se lassent pas d'être dans une association ou qui sont même gênés de ne pas y être parce qu'ils ne veulent pas vivre seuls.
Voilà, donc il y a aussi cette idée de nous sommes pour vivre ensemble, pour être en relation avec les autres. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est ça, en fait, finalement, pour dresser le portrait de quelqu'un, c'est toujours dans une question de relation. On n'existe pas tout seul, finalement.
Quand on écoute les gens, on les comprend. Bien souvent, il y a une attitude qui peut choquer, etc. Mais si on reste sur ça, c'est zéro. Par contre, si on cherche à approfondir la personne, à ce moment-là, il y a une découverte. Et moi, je crois que la fraternité, il y a la découverte de l'autre.
Et on s'enrichit. L'autre
Oui, voilà. Quand on franchit la barrière des étiquettes et qu'on essaie de comprendre d'où vient cette histoire, il y a là une véritable... On est pauvre de ce qu'est l'autre. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a un enrichissement à entendre son expérience. C'est vrai. C'est peut-être là aussi un point important de notre humanité. C'est de s'enrichir de ce que sont les autres.
Oui, la difficulté, c'est que on a souvent des préjugés.
Et faut les dépasser.
Voilà, faut dépasser les préjugés. Et d'où viennent les préjugés? On revient à la première question. Ça vient forcément de l'éducation. Les préjugés, ils sont pas innés. Ils ont été entendus ici et là.
La peur de l'autre aussi.
Oui, la peur, liée à la méconnaissance, à l'ignorance, à l'absence de contact.
Et c'est là qu'effectivement l'air du temps intervient aussi dans l'éducation. Il n'y a pas simplement l'éducation des parents, l'éducation de la famille, l'éducation de l'école. Il y a aussi l'air du temps. Et tout à l'heure vous disiez ça ouvre à... Il fait beau et on a envie de sourire et de sortir. Et il fait mauvais. Et si l'air du temps est mauvais, effectivement, c'est négatif. Mais ça veut dire que la fraternité est à construire. Ce sera le mot de la fin, non?
Oui,
de la fin.
C'est à construire, c'est un effort.
Un effort, et c'est à construire.
Mais payant.
C'est un effort payant
pour l'individu. Payant, je parle pour la vie, pour son épanouissement personnel.
Ah oui.
Voilà, donc la fraternité, c'est gagnant-gagnant, là, partout, sur tous les fronts.
Absolument.
Eh bien, merci, et aux auditeurs, je dis, je pense que vous pouvez, avec vos amis, avec vos voisins, discuter de... ce que représente la fraternité aussi pour vous, puisque c'est plutôt une expérience à vivre qu'une expérience dont on parle. Bonne semaine à tous, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer.